Bonsoir à tous. Je vous ai pas vu, mais je vous ai entendu. Je trouvais magnifique cette louange, ces chants. Je me disais, mais le ciel entend l'Église chanter. Et c'est tellement, tellement beau. Et on voulait plus s'arrêter, parce que je crois qu'il y avait un amour qui nous transportait dans ce temps de louange. Et je trouvais ça magnifique. Alors j'ai une parole qui va bien dans le sens de ce qu'on a vécu, je trouve. Et pour introduire cela, j'ai pensé à une petite vidéo. Une petite vidéo qui va nous réchauffer. Moi j'ai eu froid cette semaine, je ne sais pas vous. Et du coup je vous propose d'aller en été. Alors imaginez, fermez les yeux, c'est la plage, il y a du sable, il y a du soleil, il y a la mer qui gronde, et elle gronde parce qu'il y a des grandes vagues. Voilà, si Yuli, tu peux passer le petit extrait vidéo. Alors, je me suis régalé hier soir à regarder ça. En fait, ils font des images absolument incroyables avec les drones. Et là, ils peuvent filmer les surfeurs en pleine action et vraiment les suivre dans leur évolution. Et j'ai trouvé ça assez fantastique. Alors, ça va illustrer mon propos. Vous voyez, c'est toute une bande de surfeurs qui se régalent à prendre des vagues. Et puis, c'est des chouettes vagues quand même. Je crois que ça, c'était spot à Hawaï ou un truc comme ça, enfin, un endroit bien. Montpellier, c'est pas mal aussi, mais on n'a pas les mêmes vagues. Et en fait, il y a quelque chose, je trouve même de réjouissant, de voir ces surfeurs qui s'éclatent, là, qui sont ensemble, entre amis, et puis qui surfent ces belles vagues. Et puis il y a ces drones qui les captent et tout. Et nous, ce soir, on vit ce temps de louange, et puis Sylvie nous invite même à la danse, elle sentait dans l'esprit qu'il y avait une danse que Dieu mettait au milieu de nous. Il y a quelque chose de beau et en mouvement qui se fait. Alors pourquoi je vous parle de ça? On revient en hiver, et on revient à après Noël. Je ne sais pas si vous posez la question, si vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe après Noël? Alors on pourrait dire il y a la galette, il y a le nouvel an avant, réveillon. Puis après, voilà, on reprend l'année, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après Noël dans la Bible? Un grand silence. Alors en fait, ce que je trouve beau, c'est que Noël, c'est comme si il y avait un... Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Dans les départs de course, il y a quelqu'un qui tirait le top départ. Et à Noël, en fait... C'est le déclenchement, c'est le top départ du salut. Et c'est un salut que Dieu avait imaginé dans son cœur depuis longtemps, il avait prévu de longue date, et à Noël, le salut, top chrono, c'est parti, il arrive sur la terre. Jésus-Christ, sa naissance, et quand il naît, il y a le salut qui apparaît. Et je voudrais lire un passage, c'est Zacharie le... Alors, ça doit être normalement l'oncle de Jésus, puisque c'est le papa de Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus. Donc, c'est son oncle. Et Zacharie, quand il a vu son fils, il s'est mis à prophétiser. Et c'est dans Luc 1. Et il parle à son fils. Il voit son fils et il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. » Et il continue en disant « C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Alors en fait, ce verset qui est projeté là, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager ce soir. Tout est là. L'ardente miséricorde de notre Dieu a fait qu'un soleil s'est levé. Un soleil s'est levé sur la terre et il s'est mis à éclairer tous les hommes, toute l'humanité. Ce soleil, c'est Jésus-Christ. Ce soleil, c'est Jésus qui a été envoyé. Et ce qui est puissant, c'est qu'il est comparé à un soleil qui se lève, non pas un soleil couchant, mais un soleil levant, et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte inexorablement vers le zénith, afin d'éclairer absolument tout, absolument toute la création. Et le choix du soleil, ce n'est pas anodin. C'est ici, dans ce verset, on voit le match entre le soleil et les ténèbres. Et Jésus, on le sait, est une lumière, mais en choisissant le soleil, c'était comme pour dire cette lumière est la plus puissante de toutes. Elle est celle qui domine, elle est celle qui règne, et elle est celle qui va venir sur les ténèbres, qui impose un joug sur les êtres humains, sur la terre. Et quand Jésus vient, avec cette image puissante du soleil, le salut commence à se répandre sur la terre. Le salut commence à se répandre parmi les hommes. Les ténèbres ne peuvent pas résister face à un soleil qui se lève. Qu'est-ce que la nuit ? Qu'est-ce qu'une ombre devant le soleil et sa puissance ? Et j'ai trouvé que ce verset qui est prophétique, Zacharie a été inspiré et il est tellement sensible, il est tellement beau dans ce qu'il exprime, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et ça, ces mots-là parlent de l'humanité, parlent des êtres humains, parlent de vous et de moi, parlent de tous ces êtres humains que Dieu aime tellement, mais qui, à cause du péché, à cause de notre humanité déchue, fait qu'on est sous un joug de ténèbres. Et peut-être qu'en lisant ces mots, ça fait écho en vous. Des ténèbres, l'ombre de la mort. Je crois que tous, dans notre expérience, on a beau avoir pas beaucoup d'années si on est jeune, mais il y a un écho à cela. Ça résonne. On sait ce que signifie être assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Quand on a senti un poids, quand on a senti, Rodrigue parlait la dernière fois des déceptions, ces choses qui viennent bousculer et nous meurtrir, quand on vit des drames, quand on vit des choses qui sont si tristes et qui nous touchent si profondément. Les ténèbres, l'ombre de la mort. Quand on voit tout ce qui peut se passer autour de nous, on voit des gens qui vivent des situations dramatiques. Les ténèbres et l'ombre de la mort. Et ce verset, je l'ai lu juste avant de partir dans mes vacances de Noël. Il m'a vraiment percuté à cause de la suite. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et en fait, quand j'ai lu ça, c'est venu me percuter. Parce que des gens assis, et assis sous le joug de ténèbres puissantes, se sont mis à marcher sur un chemin de paix. Et ça, c'est le salut. Ça, c'est ce que déclenche Jésus-Christ en venant sur la terre. C'est un mouvement, c'est une puissance, c'est une force qui fait que ceux qui étaient assis, comme paralysés, comme arrêtés dans leur vie, se lèvent parce qu'ils ont trouvé un chemin, ils ont retrouvé une motivation et ils se mettent à marcher. Et en fait, ce que je voudrais vraiment transmettre ce soir, ce qui est dans mon cœur pour nous, c'est ce mouvement. C'est ce mouvement qui vient du salut, qui se déclenche à partir du salut et qui vient de Dieu. Vous savez, un fait m'interpelle toujours, c'est que ce n'est pas l'homme qui se sauve, c'est Dieu qui sauve. Et seul Dieu sauve. C'est tout simple, mais je trouve, moi, ça m'apporte beaucoup de courage. Ça m'apporte beaucoup de réconfort de savoir ça. Parce que ça me dit que ce n'est pas sur mes efforts, que ce n'est pas sur ce que j'ai en moi, que ma vie va progresser, que je vais pouvoir être un instrument de Dieu, que l'œuvre de Dieu va pouvoir avancer. Mais c'est Dieu qui agit, et c'est Dieu qui déclenche en nous et à travers nos vies une puissance et une force. Le salut, c'est seul Dieu qui l'a. Et c'est comme si on était tous, imaginez la scène du Titanic, le bateau coule, et on est tous à l'eau, et on va tous mourir dans cette eau froide, et c'est comme s'il y avait une barque près de nous, et Jésus sur la barque, et il nous tend la main comme ça, et il nous sort de l'eau. Et il y a une force, nous on a juste à saisir la main, mais c'est Dieu, c'est Jésus qui tire et qui donne de sa force, et qui nous sort de l'eau, qui nous fait monter dans sa barque. C'est une force qui nous est communiquée. Et mon cœur ce soir, ce serait que nous captions cette force. C'est que nous captions ce mouvement qui vient de Dieu. Un peu comme ces surfeurs qui, vous savez, ils n'ont pas grand effort à faire. Il faut juste qu'ils fassent un peu, là, je ne sais pas quoi, là, comme ça. Je ne suis pas surfeur. Mais j'ai l'impression qu'ils font un peu des mouvements avec les bras pour prendre la vague. Mais une fois qu'ils sont dans la vague fait le reste. Et eux, ils sont juste là à maintenir l'équilibre. Mais c'est la puissance de leur vie, la puissance de ce moment-là, c'est la vague. Et j'ai cherché un peu, je pense techniquement ça va être difficile, mais je me posais la question, quelle est l'énergie d'une vague ? Et j'imagine que ça doit être énorme, ça doit être phénoménal. Parce que quand on voit les masses d'eau qu'il y a, pour déplacer ça, je pense, j'en suis même certain, que l'énergie derrière est absolument énorme. Pourtant, le surfeur, des fois, ils sont tous rikiki, là, comme ça. Ils n'ont pas forcément cette force en eux-mêmes. Cette parole, cette belle parole, cette image avec un soleil qui se lève, l'ombre de la mort, les gens qui marchent sur un chemin, c'est Ésaïe. Ça vient du prophète Ésaïe, 400 ans avant Jésus. Et j'aimerais qu'on aille un peu dans Ésaïe, parce que Ésaïe, je pense que c'est le prophète qui a parlé le plus du salut. Et il a eu des images puissantes pour nous parler du salut. Et Ésaïe a parlé de route, il a parlé de chemin. Et donc, quand Zacharie prophétise ça et parle cela, prie cela, en fait, il cite Ésaïe 11. Non, en fait, Ésaïe 9, pardon. Mais je vais vous lire Ésaïe 11. Voilà, c'est ça. Ésaïe 11. Il y aura une route pour ceux de son peuple qui resteront et qui demeureront encore en Assyrie, comme il y eut jadis une route pour Israël quand il sortit. Il y aura une route. Il y aura une route. C'est une promesse de Dieu. Et là, quand il parle, le peuple vit des moments difficiles. Ils sont partis en exil. Tout leur rêve, Jérusalem, a été détruit, dévasté. Ils sont emmenés, certains, avec des chaînes liées, parce que des grandes puissances les ont envahis. C'est comme si tout le rêve s'était terminé. Mais le prophète Ésaïe dit, il y aura une route pour revenir. Et ça, c'est Dieu qui donne des promesses puissantes. Des promesses qui nous disent que peut-être si tu t'es égaré dans ta vie, peut-être que dans ta vie, tu es exactement comme cette personne assise. Tu es assis et tu attends que ça passe. Et ta vie, peut-être, c'est finalement prendre ce qui passe à côté de toi, mais il y a quelque chose qui n'est pas en mouvement. Il y a quelque chose qui n'est pas réjoui. Il y a quelque chose qui a comme abandonné. Il y a quelque chose qui est comme cassé en toi. Et tu es comme assis dans les ténèbres. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on peut vivre cela. Et Dieu dit, il y aura une route. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il n'y a rien pour Dieu qui soit impossible. Et là, dans une situation extrême pour le peuple, le prophète dit, il y aura une route. Et il mentionne même, comme il y a eu une route pour Israël quand il sortit d'Égypte. Et ça, c'est un modèle, en fait, de salut, de délivrance. Le peuple, longtemps esclave, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, longtemps esclave d'Israël, de l'Égypte, Dieu l'a sorti par des miracles puissants, et puis il a tracé une route, il marchait devant eux, et puis à un moment, il y avait cette mer qui bloquait le passage, et là, Dieu a fait que la mer se sépare en deux, et un chemin est apparu au travers de la mer, et le peuple a traversé. Et ça, c'est pour nous dire, à nous aujourd'hui, que quelles que soient nos situations, Dieu crée des routes. Il y a un chemin de sortie dans nos situations. Il y a un chemin de paix. Un autre passage sur les routes, en Ésaïe 35, c'est le passage suivant. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Elle est réservée au seul peuple de Dieu. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion et les bêtes féroces n'y auront pas accès. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Là encore, des images, mais ça parle pour nous. Ça parle pour l'être humain, pour tous les êtres humains. Que celui qui le veut bien, qui entend et qui veut bien croire et qui entre dans ce peuple sauvé, alors il y a comme une route qui se dessine dans ta vie et tu te mets à y marcher. Et cette route, nous dit ce passage, elle est pleine de sécurité. Il peut y avoir des lions, il peut y avoir des choses effrayantes, des choses redoutables et dangereuses, mais elles ne s'approcheront pas sur la route. Elles seront peut-être au bord, mais elles ne seront pas sur la route. C'est une route sainte, réservée. Et le dernier passage d'Ésaïe que je voudrais citer, c'est Ésaïe 30, 21, assez court, qui nous dit « Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin. Suis-le, va à droite, et là, va à gauche. » Et ça, Ésaïe avait déjà pressenti que Dieu enverrait le Saint-Esprit, viendrait mettre Dieu en nous pour être cette voix dans notre cœur qui nous guide pas à pas. Et ce verset nous dit encore « Dieu marche avec nous sur ce chemin. » Dieu est notre berger et il marche avec nous et devant nous. Les routes parlent de délivrance. C'est-à-dire quand il n'y a rien, il y a le désert, et nous, on ne voit pas de route, et on ne sait pas dans quelle direction aller, et puis là, paf, Dieu met une route. Et du coup, on y va. Délivrance. Et ça, quel que soit ce qu'on peut vivre. La route, c'est aussi un mouvement. Qui dit route, dit avancer. Et on se met à aller d'un endroit A vers un endroit B. Progression. Et quand Dieu vient dans notre vie, et quand on choisit de marcher sur cette route, il y a une progression, il y a une transformation, il y a quelque chose qui monte, qui nous fait aller d'un point A vers un point B. Et puis, enfin, qui dit route, dit espérance. Espérance parce que le chemin mène quelque part. Il y a un but, une destination. Et dans tout, à chaque fois que Dieu en parle, on peut être sûr, ce but est merveilleux. Et Dieu ne mâche pas ses mots, il dit merveilleux. Il dit excellent. Il donne comme ça quelques images, Canaan, un pays découlant de lait et de miel. Il aime bien utiliser des mots comme ça qui sont un peu extravagants, mais qui dit c'est fantastique. Ce qu'il y a devant toi, au bout de la route, est merveilleux. Et vous savez quoi ? Savoir ça, ça motive. Ça motive. Ça fait avancer. Dieu, fondamentalement, dans toute sa révélation, c'est le Dieu de l'Exode. C'est le Dieu qui sauve et qui fait sortir ceux qui sont assis dans des ténèbres et il les place sur une route et ils se mettent en mouvement et ils vont vers un avenir merveilleux. Et ça, c'est ce que Dieu offre à toute l'humanité. C'est ce que Dieu nous offre chaque jour à nous chrétiens. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous le savez, je ne vous connais pas tous, mais vous savez où vous en êtes avec Dieu. Mais si vous n'êtes pas chrétien, permettez-moi de vous dire, Dieu t'offre ce soir une route pour ta vie. Dieu t'offre ce soir l'occasion de te mettre en marche avec lui. Il y a un chemin pour ta vie, il le connaît, il l'a déjà pensé depuis longtemps, et il t'y invite ce soir. Marchez avec lui sur ce chemin. C'est un chemin de paix et c'est un chemin qui mène à une vie réussie et à un avenir éternel et beau. Dieu est le Dieu de l'Exode. Et on voit que dans toute la Bible, finalement, Dieu n'a qu'un seul but. C'est de nous faire marcher avec lui. C'est nous sortir de notre joug, de notre difficulté, de là où on est empêtré, de là où on, peut-être on souffre. Et on peut être chrétien et vivre encore cela dans certains domaines. Et vous savez, Dieu est toujours le Dieu de l'exode, le Dieu du salut pour toi, même si tu es chrétien depuis 30 ans. Dieu est toujours aujourd'hui le Dieu du salut pour ta vie. Et quels que soient les domaines de ta vie, il veut te mettre en mouvement. Il veut te mettre sur un chemin sécure qui va te faire progresser et avancer. Le salut provoque un mouvement. Le salut, c'est comme un tsunami, une onde de choc, un séisme qui crée des vagues. Et ça crée un mouvement. Un mouvement qui vient de Dieu. Et je crois que ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous invite à faire ce soir, et dans le cas de aussi ce temps de jeûne de Daniel où on écoute Dieu, on cherche sa présence, c'est de capter ce mouvement qui vient de Dieu. Parce que c'est lui qui va vraiment nous donner une force, et pour qu'on soit tous là, toute cette assemblée, une bande de surfeurs qui s'éclatent sur les vagues et qui savent, qui ont appris, qui ont compris comment prendre la vague et comment entrer dans ce mouvement que Dieu donne dans son impulsion. Le mouvement vient de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs mouvements quand on regarde Dieu et la parole. Il y a d'abord Jésus qui quitte le ciel, qui quitte la gloire, qui quitte la présence du Père pour venir jusqu'à nous, l'incarnation. La parole qui fait tout ce voyage pour venir jusqu'à nous. Ça, c'est du mouvement quand même. C'est une belle trajectoire. Mais il y a aussi, dès la Genèse, on voit le Saint-Esprit qui se meut, qui bouge comme un souffle, comme un vent, et qui circule sur la terre. Il est toujours en mouvement, le Saint-Esprit. Il n'est pas statique. Il est toujours à l'affût. Il va chercher les hommes. Il va nous chercher. Il sonde tout. Ce Saint-Esprit, ce vent qui porte les aigles, qui veut souffler, qui veut porter les aigles. Et puis, il y a aussi un fleuve qui coule du trône de Dieu, et qui se répand sur la terre et qui, dit l'Apocalypse et Ézéchiel, se répand sur la terre et amène la guérison parmi les nations. Et ce fleuve, il coule et se répand partout. Il y a un mouvement en Dieu. C'est Paul en Acte 17, vous savez, ce passage fameux où Paul il témoigne à des philosophes, à des Grecs, férus de philosophie. Alors là, Paul s'approprie une citation d'un poète, je crois, et il dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Il dit « C'est exactement ça. » Là, le poète, il avait compris quelque chose de Dieu. C'est exactement ça. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu, on n'a pas seulement l'être dans le sens notre identité, notre valeur, on se connaît, on se découvre et on découvre et on se met à s'aimer. On n'a pas seulement une vie spirituelle qui coule, qu'on sent et qui déborde de nous et qui nous réjouit énormément, mais on a aussi un élan, une impulsion pour aller de l'avant, comme un désir qui montre que Dieu met en nous pour aller de l'avant, pour avancer dans notre vie. Il y a une dynamique divine qui se saisit de nous et qui vient de Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est comme une force qui vient de Dieu et qui fait qu'on sort de notre impasse. On prend sa main et puis on est tiré dans la barque. Et vous savez, des fois, dans nos problèmes, on se dit « mais c'est pas possible, j'y arrive pas ». Et on se décourage. Et comme disait Rodrigue, on peut être piégé dans la déception et arrêter là, dans la déception, et juste paralysé. Et juste, et on attend que ça passe. Et Dieu nous donne la force de nous relever et de marcher. Recevoir et capter ce mouvement. Alors je me posais la question, qu'est-ce que ça signifie finalement marcher sur le chemin ? C'est l'image que donne Ésaïe, mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous ? Et je me suis dit, premièrement, c'est marcher avec Dieu. Vous savez, Dieu est en marche. Et il s'agit de marcher avec lui. Quand Jésus il a invité ses disciples, il a dit « Viens et suis-moi ». C'est deux verbes dynamiques. « Viens et suis-moi ». Il y a quelque chose en action, il y a quelque chose en marche. Jésus, c'est l'image du berger et ses brebis. Et le berger, il va et ses brebis le suivent. Ça signifie être en communion avec Dieu et aller là où il va. Ça signifie vivre avec Dieu. Et quand Dieu nous dit « Fais ceci, va par là », nous y allons. Il y a quelque chose qui nous guide en fait et qui nous met en mouvement dans notre vie. On ne peut pas être chrétien et statique. Là, c'est deux mots en fait qui ne marchent pas ensemble. En fait, un chrétien, il est en mouvement. Il y a le vent du Saint-Esprit qui souffle dans ses ailes d'aigle, parce qu'en fait, les aigles, c'est nous. Et il bouge. Marcher, c'est parfois difficile, mais Dieu a promis d'être avec nous sur ce chemin. Il y a une belle histoire comme ça. Alors, elle est classique, et excusez-moi pour ceux qui connaissent, mais je pense à ceux qui ne la connaissent pas, donc je la raconte. Il y a une histoire très, très belle. C'est, alors, je crois, j'ai plus les détails précis en tête, mais c'est une chrétienne ou un chrétien qui, dans un moment de désespoir, a dit à Dieu, mais... c'est comment déjà l'histoire ? Alors, c'est une plage. Et vous savez, il y a des traces de pas, voilà, sur la plage. Et puis, ce chrétien voulait une image et Dieu lui a donné cette image. Et donc, il voyait deux traces de pas en parallèle. Et Dieu lui parle et lui dit, bah, tu vois, c'est moi qui marche avec toi. Je marche avec toi sur cette plage, donc on voit la trace de pas côte à côte. Et puis, il y a un moment de la plage et la personne là, l'identifie à un moment très, très dur de sa vie. Et là, dans son image, elle ne voit qu'une trace de pas. Elle vient devant Dieu et dit, mais c'est quoi cette affaire, là ? À ce moment-là où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné ? Et Dieu lui dit, je ne t'ai pas abandonné à ce moment-là, je t'ai porté. Je t'ai porté. Elle est touchante, cette histoire, elle est belle, mais elle est tellement vraie dans ce qu'elle dit. C'est que Dieu marche avec nous et il est fidèle. Il est absolument fidèle. Marcher, c'est aussi marcher dans ses œuvres préparées d'avance que Dieu a préparées pour nous. C'est Éphésiens 2:10, on a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes afin d'y marcher, dit le texte, littéralement. Afin d'y marcher. Et ça signifie accomplir notre destinée, marcher dans notre vocation, dans notre appel. Marcher dans ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et puis enfin, je pense, marcher en tant que chrétien, marcher avec Dieu, en communion avec Dieu, aller là où il va, marcher dans des bonnes œuvres, faire ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et c'est enfin marcher avec cette vision, ce but qui nous anime, cette espérance claire et forte. Un beau proverbe nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. » Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Alors, ce que je voudrais nous inviter à faire par rapport à ce mouvement qui vient de Dieu et qui est le salut finalement, c'est que dans ce temps de prière et de jeûne, on puisse particulièrement prier pour ça, pour que ce mouvement, nous le captions, pour que ce mouvement, il puisse remplir l'Église. Et il y a des prières comme ça, alors je pense à Ézéchiel qui prophétise sur les eaux desséchées. Et puis les eaux se mettent à bouger, et puis se rassemblent, et puis forment un corps, etc. Et la vie vient. Il y a un mouvement qui est déclenché par la prière. Et je pense que nous sommes appelés, dans ce temps de jeûne et de prière, à prier pour que ce mouvement de Dieu, ce mouvement de salut, qui vient faire lever les hommes et les femmes de leurs ténèbres pour marcher sur le chemin du salut, ils viennent, ils nous saisissent, ils nous habitent, et ils viennent remplir quelque chose. Il y a un mouvement aussi dans le monde spirituel. Vous savez, quand Daniel se met à prier, c'est dit, je crois, en 10-12, il y a un ange qui lui dit, « Depuis le moment où tu étais mis à prier, nous t'avons entendu et je suis venu, parce que Dieu l'a envoyé. » Et il y a quelque chose dans le ciel qui se met à bouger à partir du moment où nous nous mettons à prier et à l'invoquer. Et je propose, en réponse claire à ce message, c'est simplement qu'on puisse cibler cela, qu'il y ait un mouvement qu'on puisse capter. Et pour, de manière plus personnelle, bon là je parlais de manière communautaire, mais de manière plus personnelle, je voudrais vous inviter à considérer les zones de vos vies qui sont peut-être encore assises. Peut-être sous peu de ténèbres, mais peut-être sous un poids de ténèbres. Des choses qui vous font souffrir. Des choses qui vous paralysent dans un domaine et qui fait que vous n'avancez pas. Un domaine où vous sentez que vos forces ne sont pas suffisantes. Et je voudrais vous inviter ce soir à saisir ce mouvement, cette force qui vient de Dieu et qui a été libérée par le salut. Il y a dans les évangiles, cette histoire de Jésus toute simple qui passe devant quelqu'un qui est allongé à la piscine de Bethesda. Il est allongé, il est malade, il ne peut pas bouger. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Puis il lui dit, je veux être guéri. Et là, Jésus lui dit une chose, il lui dit, lève-toi et marche. Et c'est ce que j'ai à cœur de nous dire ce soir. C'est là où tu identifies une zone dans ta vie. Peut-être c'est toute ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu as l'impression que c'est toute ta vie qui est comme paralysée. Et je voudrais te dire, lève-toi et marche. Saisis par la foi cette main et laisse-toi tirer dans la barque. Lève-toi et marche. Marche. Peut-être tu fais partie des gens qui se sont éloignés de Dieu et qui se retrouvent en exil, loin de Jérusalem. Il y a une route de retour et Dieu te la propose ce soir. Lève-toi et marche. Parce que Dieu est un Dieu bon qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne. Peut-être tu vas me dire, mais où est-ce qu'il se trouve ce chemin? Et Jésus a dit, je suis le chemin. Et le psaume 87 dit, il trouve dans son cœur un chemin tout tracé. Vous savez, quand on place sa confiance en Dieu, et quand on regarde Jésus, qu'on se met à croire ce que Jésus propose, le salut, d'être sauvé, d'être en paix avec Dieu, d'être pardonné pleinement, et d'avoir une vie qui a du sens, une vie qui va quelque part, une vie qui mène à un but, une vie glorieuse, qui mène à la gloire. Il y a comme un chemin qui apparaît dans nos cœurs, qui se met à apparaître, et on commence à savoir ce qu'il faut faire. Et je voudrais vous inviter simplement pour terminer, à saisir cela. Si vous sentez ce soir, si ce message a de la résonance en vous, si vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie à prendre, je voudrais vous inviter simplement, levez-vous. Levez-vous et avancez devant pour saisir ce mouvement de Dieu. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes. Je crois que Dieu cherche ce soir des gens parmi nous. Il a vu vos cœurs. Il a vu exactement ce qui vous a arrêté. Il vous connaît le poids des ténèbres et des souffrances. Il sait ce que ça engendre. Et ce soir, il veut vous donner une force qui vient de son cœur, de son amour pour vous, qui a été délivré, libéré complètement du ciel et qui se répand sur la terre par Jésus-Christ qui est venu. Il veut la placer dans votre cœur pour que les choses changent, pour que les choses bougent, pour que les choses impossibles que vous n'arriviez pas à bouger jusqu'à présent puissent se mettre à bouger. Il va placer une route, il va la faire apparaître en vous et vous allez savoir exactement ce qu'il faudra faire moment après moment. Si vous pensez que cette parole est pour vous, si vous voulez une dynamique dans votre vie, si vous voulez un élan, si vous voulez quelque chose qui vous motive et qui vous donne d'aller et de marcher, si vous sentez que vous devez marcher avec Dieu de manière plus intense, si vous sentez que vous avez besoin que Dieu vous aide, je vous invite, levez-vous et avancez. Levez-vous et avancez. Ce matin, j'ai lu à mon réveil le psaume 88. Et j'étais presque en larmes en le lisant. Parce que le psalmiste disait, mais je suis accablé. Je suis accablé. Dieu, secours-moi. Viens à mon secours. Et le psaume exprimait une telle souffrance. Et Dieu me disait à travers cette lecture, je connais la souffrance. Je connais la souffrance de ceux que j'aime, des êtres humains. Je connais précisément. Et je veux vous sauver. Je suis l'Éternel qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Je suis l'Éternel qui sauve. Saint-Esprit, merci parce que tu es l'Esprit de Dieu qui sonde tout. Tu es ce mouvement puissant. Saint-Esprit, merci parce que tu amènes au fond de nos êtres l'amour profond de Dieu. Tu amènes une clarté, une limpidité sur la vérité. Tu ouvres nos yeux. Tu nous permets de voir et de comprendre. Tu chasses la tristesse. Tu chasses la honte. Et tu amènes la joie durable. Tu amènes la paix durable. Saint-Esprit, je te prie, viens maintenant. Viens maintenant et sonde les cœurs de tous tes bien-aimés. Sonde les cœurs, Saint-Esprit. Et viens répandre cette promesse de ta parole, cette promesse des prophètes. Fais jaillir une route dans le cœur de tous ceux qui se sont levés, qui sont là devant toi, Seigneur. Fais jaillir un chemin de paix. Fais jaillir, Seigneur, une espérance, là où il y avait abandon, là où il y avait déception. Seigneur, fais lever une dynamique, quelque chose, une force, pour que mes frères et mes sœurs, pour que toutes ces personnes se mettent à se lever là où ils étaient assis. Que ton amour nous bouge, que ton amour, Seigneur, mette en nous ce mouvement.